Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Comment lutter efficacement contre le choléra en RDC? On en parle avec le docteur Mavar Kungani, responsable national de l'hygiène, le choléra. Vous le savez, cette maladie fait partie de maladies dites de main sale. Avec les docteurs Mavar, on va découvrir comment lutter efficacement contre donc cette maladie. Vous êtes dans n'importe quel coin du pays où vous êtes confronté au problème du choléra. En tout cas, appelez-nous 081-890-6394 ou bien envoyez un SMS au 081-711-5001. Docteur Mavar Kungani, pourquoi d'abord le choléra est classé par la maladie dite de main sale?
Oui, merci beaucoup pour cette question. Le choléra est classé parmi les maladies de main sale. Quand nous regardons comment est-ce que le choléra se transmet, en fait, on constate effectivement que c'est une maladie qui est liée à une hygiène défectueuse. Vous savez que le choléra, lorsque l'homme contracte le choléra, le choléra passe dans les intestins et provoque des diarrhées muqueuses et liquides. Et à ce moment-là, le choléra est éliminé par les selles. Et lorsque l'individu touche, est en contact avec les selles, et au fait, il porte sa main vers la bouche, évidemment, peut-être de façon inconsciente, mais au cours d'un événement où les mains ne sont pas bien nettoyées, le contact des mains avec la bouche, il contracte ainsi les germes. C'est pour cela qu'on parle des maladies liées aux mains. C'est au fait comme toute autre maladie qui sont transmises par les mains sales.
Et comment on attrape cette maladie, docteur? Parce que vous venez tout à l'heure de parler d'une personne qui touche le sel, c'est-à-dire le sel qui sont émises par une personne qui est déjà qui souffre déjà de la maladie, qui souffre du choléra.
Oui, lorsque on se trouve dans des zones endémiques ou dans des zones où il y a l'épidémie de choléra,
oui.
Là il faudrait savoir que sur peut-être 100 personnes, il y a à peu près soit plus de 60 personnes qui portent les germes, mais qui ne développent pas la maladie.
Oui.
Donc, en fait, ils portent les germes en eux. Et les germes se trouvent souvent au niveau des mains, parce qu'en fait, c'est les mains qui sont souvent en contact avec les excrétas et les autres éléments d'élimination de germes. C'est pour cela que lorsqu'il est en contact avec les selles, évidemment, Et là, ça pose un réel problème pour cette personne-là. S'il ne se lave pas correctement les mains, il sera amené à transmettre d'une personne à une autre. Et pour les personnes qui font la maladie, c'est autour de 10% des personnes. Lorsque la situation au niveau du corps est déséquilibrée,
oui,
et qu'il y a beaucoup plus de germes, par exemple, la personne peut basculer et développer la maladie, le choléra maladie. Mais on trouve souvent des gens qui se promènent, bon, évidemment dans des coins, où les gens qui se promènent avec ces germes de choléra, mais au fait, ils les transmettent, mais ils ne développent pas la maladie. Donc c'est une partie de la population et de qui, lorsqu'ils sont déséquilibrés, au niveau de l'organisme, évidemment, ils développent la maladie. Et ça, c'est courant.
Donc, lorsqu'on boit, on consomme de l'eau ou on mange des aliments, de la nourriture contaminée par le sel d'une personne qui souffre du choléra, donc on est également exposé à la maladie.
Bien sûr. C'est-à-dire que les sels, aujourd'hui, quand nous regardons les sels, nous allons déposer les sels dans les toilettes, dans les sanitaires. Maintenant, on a constaté, par exemple, dans certaines villes où les sanitaires sont pratiquement, pour certains, inciviques, je peux le dire ainsi, ils branchent les fosses septiques directement au caniveau et les enfants vont jouer là-bas, dans les caniveaux. Donc, les caniveaux, dans les caniveaux, il y a l'écoulement des eaux sales, Mais également, il y a ces germes qui sont là-bas. Et les enfants peuvent aller jouer en jouant, en cherchant peut-être tel élément. Donc, même les grandes personnes peuvent se contaminer. Et en dehors de ça, évidemment, il y a les contacts directs avec les germes. Mais aussi, les germes peuvent se trouver aussi dans l'eau. Dans l'eau de boisson, lorsqu'on se retrouve dans des zones où les gens utilisent l'eau de boisson qui n'est pas tellement saine. Donc, à ce moment-là, les gens se contractent et contractent la maladie. Ou, lorsqu'on manipule de l'eau propre, on manipule par une personne qui a les germes, évidemment, il peut contaminer l'eau et les gens contractent la maladie.
Et vous avez dit, les gens contactent la maladie, est-ce qu'il y a des signes qui permettent de signes d'alerte par rapport au choléra?
Oui, les signes d'alerte, on les connaît, en fait, ça, tout le monde les connaît, c'est en fait des diarrhées aqueuses aiguës, ou qui peuvent s'en suivre avec ou sans vomissement, mais en fait, ce sont vraiment des diarrhées aqueuses qui vont entraîner dans quelques heures une déshydratation profonde. Et parfois, dans moins de 6 heures, l'homme ou la personne peut présenter des signes de perte de connaissance par perte d'eau. À ce moment-là, il faut rapidement amener la personne vers un centre approprié.
Il faut une prise en charge médicale urgente. Et à quoi va consister cette prise en charge?
Cette prise en charge, ce n'est pas évidemment, lorsqu'on se retrouve, comme ce sont les premiers cas, on les amène dans un centre de santé et au niveau de l'hôpital, les personnes qui sont chargées de la prise en charge, lorsqu'ils diagnostiquent que c'est le choléra, évidemment, ils savent un peu les mesures à prendre. Il y a la réhydratation, il y a la lutte contre la déshydratation, mais il y a aussi des antibiotiques qu'on donne à ces personnes-là pour lutter contre les germes et il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Et lorsqu'on se trouve dans des zones où il y a de choléra est endémique et il y a des mesures qui avaient été prises déjà avant, on a érigé par exemple un centre de traitement de choléra, bon, ce que nous appelons couramment les CTC, on amène la personne vers les CTC et c'est au niveau des CTC que la personne sera prise en charge de manière correcte.
Mais docteur, l'année dernière, il y a eu beaucoup de foyers hein, de choléra à travers les pays. Il y avait le Katanga, il y avait l'Équateur et également beaucoup d'autres provinces. Et comment lutter vraiment efficacement contre le choléra en RDC?
Oui, merci beaucoup pour cette question. La lutte contre le choléra, la lutte efficace contre le choléra ne peut venir que lorsque nous nous mettons ensemble.
Oui.
Et je le dis, nous l'avons dit au niveau de nos forums avec les différents partenaires, il faudrait quand même une lutte acharnée, non seulement par les ministères de la Santé, mais en fait, quand vous voyez les choléra, en ce qui concerne les voies de contamination, comment les gens entrent en contact avec les germes, il y a beaucoup de ministères qui entrent en jeu, notamment le ministère de l'Environnement. Notamment le ministère de l'Agriculture notamment également le ministère des Transports et Voies de Communication. Quand nous regardons les différentes embarcations qui sont sur les fleuves, les gens sont entassés les uns à côté des autres et parfois des gens qui portent les germes de choléra. Et il n'y a pas de sanitaire de nom. Donc, au fait, tous ces ministères, nous sommes réunis pour élaborer un document qu'on a appelé les plans stratégiques multisectoriels d'élimination des choléra. Le document est élaboré et aujourd'hui, il est en train d'être vulgarisé au niveau de chaque province. Et pour une lutte efficace, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se mette tous ensemble et produire un document. Nous l'avons produit, mais maintenant, vulgarisé au niveau des provinces. Sensibiliser l'autorité provinciale. Aujourd'hui, la santé, de plus en plus, on le sait, c'est en fait un volet ou au fait des activités qui sont beaucoup plus vouées dans les provinces. Donc l'autorité provinciale doit s'approprier de la lutte contre les choléra et mettre en place un comité provincial de lutte contre les choléra. Nous venons de faire cet exercice avec certains collègues dans les différentes provinces. Donc le comité de lutte va prendre quoi ? Va prendre des axes, notamment des axes de renforcement des activités de la surveillance. Non seulement la surveillance médicale, mais globale. Oui. Donc l'agriculture, l'environnement, le ministère des plans qui coordonne, mais la santé également, et aussi permettre la circulation de l'information.
Voilà.
Le deuxième axe...
Oui, allez-y, le deuxième axe.
Le deuxième axe, ce sont les mesures de prévention qu'il faut lutter. toutes les mesures de prévention. Le troisième, c'est la mise en place des interventions durables en eau, hygiène, assainissement. Et là, ce sont les forages, les puits d'eau, l'aménagement des sources. Et puis, le quatrième axe, c'est la prise en charge des cas et enfin le renforcement de la coordination et de la communication. Donc, voilà un peu les différents axes qu'avec ces éléments, au niveau de chaque province, si on met en place une structure qui va contenir avec comme responsable l'autorité provinciale, appuyée par le gouvernement provincial, je suis sûr que nous arriverons non seulement à réduire les cas de choléra, mais également à éliminer les choléra de la RDC.
Voilà, comment lutter efficacement contre le choléra en RDC? On en parle avec le docteur Mavar Kwengani, il est responsable national de l'hygiène. Il y a déjà des auditeurs en ligne. Vous êtes également intéressé par ces sujets. Vous voulez intervenir, appelez au 081 890 63 94.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Edgar Lokamba nous appelle de Kananga dans les Cassins occidentales. Jérémy Do est à Bandundouville dans la province du Bandundou. Edgar, bonjour.
Bonjour Marcel et merci pour la parole.
On vous écoute Edgar.
Merci. On sait que le choléra est une maladie à transmission mécanique, c'est-à-dire fécho-orale. Et du point de vue épidémiologique, la lutte vise à briser la fameuse triade épidémiologique, donc agent causal, environnement et hôte sensible. Alors je pose ma première question au docteur responsable de l'hygiène. Quelles sont les mesures qui sont prises à votre niveau pour briser cette triade épidémiologique de façon systémique sur l'agent causal, l'environnement et l'hôte sensible? Et puis en rapport avec l'hôte, qui est l'homme? Moi, je pense que la manière dont la sensibilisation est menée n'est pas appropriée au contexte social de la plupart des Congolais. En ce qui concerne le lavage des mains, par exemple, on dit qu'il faut laver les mains pendant les trois moments critiques avant de manger, après avoir été au WC et après avoir échangé les couches de l'enfant. L'eau potable n'est pas accessible à tout le monde. Et même quand on a accès à l'eau potable, vous allez voir dans une famille, par exemple, de 5 ou 7 enfants, tout le monde se lave les mains dans un seul seau. Comme résultat, la dernière personne qui se lave n'a fait que recueillir les saletés de ceux qui ont lavé avant. Donc, le seul moyen de lutte reste une bonne communication pour le changement de comportement. Et puis, l'autre question, Marcel, je demande à l'invité, il faut combien de cas pour parler d'une épidémie de choléra dans une zone de santé? Et la dernière, nous avons suivi sur le point de presse des Nations Unies sur Radio Capi. Ici, on a commencé la vaccination au niveau de Calémi. Je demande à l'invité si cette vaccination va se répandre à travers les pays. Merci beaucoup.
Donc, Kamba, vous avez appelé de Kananga dans le Cassin occidental. On va se rendre à Bandundouville. Et là, on va retrouver Jerry Mido. Bonjour, Jerry.
Bonjour, Maxime.
On vous écoute, Jerry.
Souvent, je constate que le choléra provient souvent dans l'eau. Est-ce qu'il y a une relation entre l'eau et le choléra? Parce que quand je dis ceci, donc vous allez voir souvent le choléra circule dans les provinces, par exemple orientales. On dit souvent dans les pays, dans les provinces qui se trouvent là, en bas de ces provinces-là, faites attention, je ne sais pas. Qu'est-ce qui fait que le choléra circule souvent dans l'eau? Ça, c'est la première type de préoccupation. La deuxième type, quels sont les premiers remèdes ou bien les premiers secours qu'on peut porter à une personne qui souffre du choléra avant de l'amener au centre de santé? C'était ça les deux préoccupations à poser à l'invité.
Merci Jérémy Do, vous avez appelé de Bandundouville, à Lubumbashi, dans le Katanga. On va retrouver Bill Ngoy. Bonjour Bill.
Bonjour.
On vous écoute Bill, quelle est votre question sur comment lutter efficacement contre le choléra en RDC?
Bon, moi j'avais une question à poser à l'invité.
Oui.
Je voulais savoir... À l'époque, nous, on savait que les choléras se lissaient dans les milieux riverains, tels que ici au Katanga, Bukama, à Kalemie et ailleurs. Mais il se fait malheureusement qu'aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur. Maintenant, on en a ici au niveau de Lubumbashi. Nous posons la question de savoir, à l'époque, il y avait un service d'hygiène qui s'occupait de l'assainissement du milieu. Où est parti ce service et pourquoi on n'a rien n'est fait apparemment pour lutter efficacement contre cette maladie?
Oui, c'est bon, ça s'arrête là, Bill?
Oui.
C'est tout pour votre préoccupation, c'est bon, ça s'arrête là?
C'est ça.
D'accord.
Oui, c'est ça la question.
D'accord. Merci Yabil Ngoy. Vous avez appelé depuis le Lubumbashi dans le Katanga. On va retrouver notre invité, le docteur Mavar Kwengani, qui est responsable national de l'hygiène. On va commencer par Edgar, qui a parlé de la triade épidémiologique. Certainement, il est dit domaine. Docteur l'a dit, quelles sont les mesures qui sont prises pour briser cette triade épidémiologique, c'est-à-dire entre l'agent causal, l'environnement et l'autre sensible. Vous voulez bien d'abord nous expliquer cette triade, docteur Mavar Kwengani?
Oui, merci beaucoup. Je félicite notre collègue Edgar. Il a parlé des triades épidémiologiques, il a parlé de l'environnement et les autres. Au fait, il a raison. Il a raison. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour briser le triade qui est au fait le triade de la mort? C'est que nous devons, et nous l'avons dit, ensemble nous nous sommes réunis. Et on s'est dit, pour qu'on arrive à briser, il faudrait des mesures. Et ces mesures-là ne peuvent venir que lorsqu'il y a qu'on arrive à renforcer d'abord les mesures de prévention au niveau d'abord individuel et au niveau collectif, les mesures de prévention. Deuxièmement, nous avons parlé de mettre en place les interventions à l'eau, hygiène, assainissement. Aujourd'hui, au fait, le choléra, on sait que le choléra, c'est une maladie qui est liée à l'eau. Là, je réponds également à notre collègue de Géry.
Oui.
C'est une maladie qui est liée également à l'eau, à l'hygiène défectueuse et à un mauvais assainissement. L'assainissement dont on parle, il y a l'assainissement public des caniveaux et des autres, mais aussi l'assainissement des bases, donc les latrines. Donc, c'est pour cela qu'il faudrait, pour arriver à corriger, qu'il faudrait donner à la population de l'eau potable. Il faut arriver à fournir de l'eau potable. Non seulement de l'eau potable arrive au niveau de la population, mais que cette population sache utiliser correctement cette eau. Du site de puisage de l'eau jusqu'à la conservation. Et aujourd'hui, il y a des études qui disent qu'au fait, l'eau est contaminée à plus de 70% pendant les trajets, donc entre le puisage et la consommation, en passant par la conservation de l'eau. Donc, avec tous les ustensiles et les autres. Donc, là, il faut assurer ces mesures. Deuxièmement, il a parlé des mesures de lavage des mains et autres.
De trois moments critiques. Il a dit qu'il n'y a pas, par lui, il estime qu'il n'y a pas assez de sensibilisation par rapport à ça. Vous parlez de
évidemment,
trois...
c'est vrai. Les oui. sensibilisations, en fait, il y a le collègue qui est en bas qui a parlé même de la brigade d'hygiène, qu'il voit qu'il est existant, tout ça. C'est vrai. La sensibilisation ne doit pas être la sensibilisation d'un seul service. Nous avons parlé aujourd'hui que le problème de choléra, c'est un problème d'ensemble. Donc, lorsque nous devons faire les mesures de sensibilisation, les collègues de l'environnement doivent avoir de l'information et sensibiliser les gens. Les collègues de l'agriculture également doivent avoir l'information et pouvoir mettre en place des mécanismes pour sensibiliser les gens. Les collègues de transport et voies de communication également doivent avoir de l'information et sensibiliser les gens sur les pratiques correctes. Dans les cas contraires, évidemment, on va te demander peut-être un service d'hygiène de tout faire. C'est vrai que le service d'hygiène aujourd'hui est fragilisé, mais nous sommes contents parce qu'au fait, l'autorité, les autorités, que ce soit au niveau national ou au niveau provincial, ont pris la résolution de redynamiser ce service. Donc, au fait, je pense que le service va renaître bientôt parce qu'au fait, c'est un service qui a fait vraiment défaut entre les années 80 à 2000. Donc, au fait, et aujourd'hui, les gens que nous avons dans les services, ce sont des gens qui sont vieux, de vieilles personnes. Donc, vraiment, ça n'arrive pas à temps. Donc, je disais tout à l'heure qu'on doit renforcer les mesures de prévention au niveau des individus. Les connaissances par rapport aux pratiques de lavage des mains doivent être intégrées au niveau de la famille. Les pratiques qu'il a parlé tout à l'heure, que les gens se lavent tous les mains, mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui réclament lorsqu'il y a une personne qui est décédée du choléra, il y a des gens qui réclament de prendre ses corps pour amener, faire les rites et les manipuler. C'est encore d'autres pratiques qui sont dans nos mœurs et dans nos coutumes qu'il faudrait essayer de positiver pour leur dire qu'il faudrait, lorsque dans de tels cas, il faudrait laisser le personnel de santé s'en charger, mettre dans les sacs mortuaires, désinfecter et aller enterrer de façon hygiénique. Donc, il y a des mesures qui sont en train d'être prises. Et je suis d'avis avec lui qu'il faudrait mettre en place un système de communication efficace. Nous l'avons dit, c'est pour cela que dans les axes que nous avons j'ai cité tout à l'heure dans le renforcement des mesures de prévention, nous avons mis en place également des mesures de communication qui doivent être efficaces. La communication est tangentielle, donc au fait, ils trouvent pratiquement tous les axes et on doit mettre en place non seulement cette coordination, mais cette communication, mais également aussi une coordination multisectorielle qui doit être renforcée pour permettre à ce que la lutte contre le choléra soit une lutte effective.
Bon, docteur Mavard, j'imagine bien que tous les auditeurs qui nous suivent se réjouissent de cette nouvelle. On espère que le service d'hygiène va vraiment renaître de ses cendres, qu'il aura suffisamment de moyens par rapport à ça, et cela permettra vraiment de lutter contre de maladies du genre choléra, mais également ceux qui sont des géris et qui voulaient savoir quels sont les premiers remèdes à administrer, le premier geste de secours à une personne qui souffre du choléra.
Le premier geste, les premières conséquences sont, au fait, pour la personne, c'est la déshydratation due aux pertes d'eau.
Oui.
Notamment pendant la diarrhée. Et lorsqu'on sait qu'il y a une personne qui souffre de choléra, ou il y a une suspicion de cas de choléra, les premières mesures pour cette personne-là, en l'amenant au centre de santé, il faudrait faire voir la personne. Si la personne ne vomit pas, c'est vraiment une grâce. Et à ce moment-là, on renforce la réhydratation par voie orale et permettre à ce que... Moi, je pourrais dire que, au fait, je pense qu'on peut donner des antibiotiques, mais j'aimerais bien laisser ce volet au service médical qui peut déterminer quel type de germe, quel type de médicaments les germes est sensible et donner les médicaments. Parce que nous risquons de précipiter en donnant les médicaments à la maison et laisser les malades à la maison. Pour un malade qui est un cas connu de choléra, évidemment, il faudrait, je suis sûr qu'il n'est plus à la maison, qu'il faudrait l'amener rapidement au CTC, au centre de traitement de choléra, ou alors carrément, et en fait, dans un centre hospitalier où on peut le prendre en charge correctement. Donc les mesures sont faites de déplacer la personne rapidement,
oui,
vers un centre de traitement de choléra ou une structure sanitaire régulière et reconnue. Deuxièmement, pour les différents diarrhées, lorsque les diarrhées surviennent, il y a également, par exemple, les centres de traitement de diarrhées qu'on peut trouver dans des structures de soins. On peut orienter la personne vers ces structures-là.
Voilà. Richard Kachai nous appelle du Kananga, dans le Kassai occidental. Vous voulez également intervenir par rapport à ce sujet sur comment lutter efficacement contre le choléra en RDC. Vous pouvez nous appeler au 081-890-6394. Docteur Mavard Kungen, responsable national de l'hygiène, est là pour répondre à vos préoccupations. Voilà, on va accorder la parole à Richard Kachai. Richard, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour à l'invité.
Voilà, vous nous appelez du Kananga, dans le Kassai occidental. On vous écoute, Richard. Quelle est votre question?
Ah oui, monsieur le journaliste, je suis intéressé par ce sujet.
Oui.
Quand l'invité parle surtout de l'hygiène publique et invoque la diarrhée comme étant aussi un signe, les symptômes du choléra, ça m'a intéressé pour dire que, vous savez, par rapport à l'hygiène publique, surtout ici à Kananga, parmi les marchés impropres du Congo, les marchés de Kananga sont impropres à une échelle non jamais vue dans le monde. Pourquoi? Parce que vous trouverez dans le marché où les personnes de partout viennent pour échanger leurs biens, il y a une malpropreté que vous ne pouvez pas vous imaginer. Des mouches sont partout et il n'y a même pas de poubelles au marché pour que les gens puissent quand même savoir où jeter quelque chose, éviter des maladies comme ça. Alors, j'aimerais au moins demander à l'invité par rapport à ces gens-là, comment les protéger, parce qu'ils peuvent attraper la maladie de choléra sans même, donc ils ont respecté d'autres règles ici d'hygiène, mais au marché ils vont rencontrer cette maladie-là. Deuxièmement, vous savez, il a évoqué la diarrhée, mais beaucoup de maladies ces derniers temps ont un dénominateur commun, la diarrhée. Le sida aussi, il y a un symptôme de la diarrhée, la déshydratation et consorts. Mais comment nous pouvons différencier la diarrhée du sida plutôt et la diarrhée du choléra? Et quels sont les symptômes spécifiques de toutes ces deux maladies? Voilà au moins ma préoccupation.
Voilà, merci Richard Kachayi. Vous avez appelé de Kananga dans le Kassai occidental. Docteur Mava Kungani, qu'est-ce que vous dites à Richard Kachayi?
Merci beaucoup, collègue Richard. Je lui dis que, au fait, je pense, je suis sûr jusque-là, la province du Kassai occidental n'est pas en épidémie, mais il ne doit pas rester les mains croisées. Ils doivent, autour de l'autorité provinciale, autour du gouvernement provincial, mettre en place un plan de contingence. Et nous avons demandé aux collègues du ministère de la Santé, au fait le ministère provincial et le collègue là-bas, pour mettre en place un plan de contingence, lutter. Parce qu'au fait, les gens circulent au fait dans tous les pays. En ce qui concerne les marchés impropres, c'est vrai que les marchés aujourd'hui sont devenus beaucoup plus les lieux de vente et les lieux d'achat sans pour autant tenir compte des conditions d'hygiène. Et là, parfois nos services d'hygiène sont butés à ces problèmes aux responsables administratifs du marché, qui ne voient que l'entrée des recettes et qui ne prend pas en compte les services d'hygiène. Je suis sûr que dans les 11 provinces, les grands marchés qu'il y a, quand vous regardez dans les sanitaires, vous allez voir les sanitaires, je vous assure qu'il n'y a pas trois qui ont des sanitaires qui sont adéquats ou hygiéniques. Et au fait, beaucoup n'ont pas de sanitaires et font la défécation. C'est, en fait, il n'y a pas de sanitaires, on fait la défécation
sanitaires,
à l'air libre.
Des sanitaires, donc, c'est-à-dire des toilettes.
Des toilettes hygiéniques, il n'y a pas de toilettes. Donc au fait, ils font pratiquement la défécation ou la miction pratiquement dans les rues ou bien au coin de la rue. Donc là, évidemment, c'est un problème parce qu'il y a la prolifération des mouches. Non seulement ça, mais en fait, les denrées alimentaires qui est vendu. Les denrées qui normalement devaient être congelées, par exemple, et garder le froid jusqu'au soir. C'est quand vous regardez un peu tout ce qu'il y a comme système de réfrigération et consort, vous allez constater qu'au fait, on nous vend souvent, quand on regarde, c'est au fait des denrées alimentaires de mauvaise qualité. Ça, vraiment, il faut qu'on se le dise. Et lorsqu'un service, un agent de l'hygiène passe, pour saisir, évidemment, ça devient un problème administratif et souvent l'autorité administrative prend part pour libérer l'agent, faire ceci, tout ça, laisser consommer, que les Congolais ne meurent pas des microbes, alors que, évidemment, les trois quarts des Congolais meurent des microbes. Donc, au fait, je ne dirais pas que c'est une guerre, mais en fait, c'est un éveil qu'il faudrait, une sensibilisation que nous demandons toujours à nos agents d'aller vers les services administratifs, vers les responsables des marchés, pour qu'ils travaillent en collaboration, permettre à ce que les marchés, comme les supermarchés, et ça je ne peux pas le cacher, comme les supermarchés, soient un lieu d'approvisionnement en denrées alimentaires de qualité. Parce que vraiment, il faut qu'on se le dise. La deuxième question, il y avait un collègue qui a parlé de diarrhée et du sida. Évidemment, quand vous parlez en termes de diarrhée, évidemment, il y a vraiment beaucoup plus de maladies qui sortent, qui donnent pratiquement les mêmes symptômes communs comme la diarrhée, évidemment. Même les paludismes, parfois, lorsqu'il est dans la forme viscérale, il donne parfois des diarrhées, parfois des constipations. Donc, au fait, nous avons parlé des diarrhées colérique, de sorte de diarrhée aqueuse ou l'eau, on voit l'eau, on n'a pas le temps, la personne n'a pas le temps de faire jouer ses sphincters, il ne voit pas. Et l'eau coule, se fait l'eau en forme de l'eau de riz, et vraiment, parfois l'eau aqueuse, donc ça sort. Alors que dans les VIH-SIDA, il y a les contextes, évidemment, des contaminations pour les choléra également, mais dans les VIH-SIDA, il y a les contextes. Des fièvres, il y a des fièvres à long cours, il y a l'amaigrissement, évidemment ça peut venir de la diarrhée aussi, mais il y a des fièvres à long cours, il y a l'amaigrissement, il y a les contextes dans lesquels l'individu se trouve. Ce n'est pas une diarrhée comme une diarrhée de choléra où la diarrhée survient le matin et déjà dans l'après-midi, la personne peut mourir. Mais la diarrhée du VIH-SIDA, c'est au fait des diarrhées qui surviennent, mais pas une diarrhée profuse qui peut entraîner les décès le même jour, non.
Donc, docteur Mava, on doit retenir que la diarrhée pour le choléra, c'est une diarrhée sévère qui ressemble à l'eau de riz et qui peut emporter le malade dans les 6 heures qui suivent aussi un traitement. La personne malade n'est pas traitée à temps.
Oui, oui. Oui, oui, effectivement.
Voilà, docteur Mava, je crois qu'on va s'arrêter par là, mais on rappelle que selon vous, l'hygiène, c'est d'abord un problème individuel avant d'être un problème public. C'est vrai que tous les efforts doivent être conjugués dans tous les secteurs de la vie pour arriver à en temps réduire et tant soit peu de maladies dites de mer sale comme le choléra. Mais important de toujours se rappeler qu'il faut se laver les mains avant de manger. Il faut également se laver les mains après avoir été aux toilettes, également se laver les mains après avoir changé les couches de l'enfant.
Oui, effectivement. Et aussi mettre en place les plans provinciaux multisectoriels d'élimination du choléra.
Voilà. Merci beaucoup, docteur Mavara Kwengani. Nous rappelons que vous êtes responsable de l'hygiène nationale et vous étiez notre invité pour parler de cette question, de comment lutter efficacement contre le choléra en RDC. Merci beaucoup et à la prochaine.
À la prochaine.